Le 13 septembre 1940, à Buenos Aires, l'après-midi était pluvieuse et la guerre en Europe si loin qu'on pouvait se croire encore en temps de paix. Parmi les passants furtifs de l'Avenida de Mayo, un homme âgé de 38 ans, Vicente Rosenberg, protégé par son chapeau, avançait d'un pas posé vers la porte du Tortoni, un café à la mode que l'on pouvait en ce temps-là croiser aussi bien Jorge Luis Borges et des gloires du tango que des réfugiés européens comme Ortega y Gasset, Roger Caillois ou Arthur Rubinstein. Vicente était un jeune juif, ou un jeune polonais, ou un jeune argentin. C'est la première page du nouveau livre de Santiago H. Amigorena que je viens de vous lire. Cette page est extraite de ce livre qui vient juste de sortir, qui s'intitule « Le ghetto intérieur ». Merci Santiago d'être en direct ce soir, mais comme tous les soirs, nous allons commencer en musique, et pour vous et pour nous tous, avec Claude Nougaro.
Je suis bon, non, non.
Avez-vous compris, Santiago Amigorena, pourquoi vous étiez muet quand vous étiez enfant ?
Alors, je n'ai toujours pas compris. Si j'avais compris, je pense que j'arrêterais d'écrire. Donc, avec ce livre-là, Le ghetto intérieur, je donne une des possibles clés de ce silence qui m'occupe depuis très longtemps. Il y aura d'autres clés. Je pense que c'est pas la seule clé, mais voilà, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive sur le silence de mon grand-père, qui est directement lié à la manière dont il a découvert ce qui se passait en Europe pendant la guerre. Donc, il habitait à Buenos Aires depuis 1928. Et il recevait des lettres de sa mère qui sont devenues de plus en plus rares. À partir de 1939, et les dernières lettres donc, que j'utilise dans le livre, qui ont été envoyées depuis le ghetto de Varsovie, l'ont plongé dans un silence que je connaissais, c'est-à-dire que dans ma famille, on m'avait toujours parlé de ce silence, et que je n'avais jamais lié directement à mon silence à moi, jusqu'à il y a quelques années.
Donc les racines de votre silence sont à trouver dans une généalogie familiale qui a été oubliée.
Oui, ou qui a été
volontairement.
Dans ce cas-là, c'est vraiment un silence que mon grand-père s'est imposé. Je pense comme beaucoup d'autres survivants, disons, lui c'est un survivant qui a vécu la guerre à 12 000 km de distance, donc c'était assez particulier. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé les mots pour dire ça. Moi, je me suis mis à les chercher, donc 70 ans après, j'ai sans doute eu aussi du mal à les trouver, donc c'est pour ça en partie que c'est le 10e livre que je publie, et c'est le premier où je me confronte à ce silence-là.
Quand vous étiez enfant, vous ne parliez pas, ce qui inquiétait normalement, évidemment, vos parents. D'autre part, vous aviez deux parents psychanalystes, donc j'imagine que ça renforçait encore l'angoisse des parents de voir cet enfant-là qui ne s'exprimait pas. Mais vous avez trouvé un moyen de dialoguer avec le monde, et ce moyen-là, c'était l'écriture.
Oui, c'est l'écriture. Donc, j'ai appris, comme tout le monde, à écrire à l'âge de 6 ans. Mais disons que l'écriture, je me suis assez vite rendu compte que c'était une autre forme de silence. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas la parole. Dans la parole, il y a quelque chose qui est vivant, qui est un dialogue où l'autre est à égalité, disons, avec nous quand on parle. Dans l'écriture, on met des mots morts et que les lecteurs vont ressusciter à leur manière. Donc, c'est toute la beauté de l'écriture. Mais disons que presque tous mes livres parlent du silence de parole et du silence qu'on retrouve dans l'écriture, et donc qui ne fait que exacerber aussi cette blessure. Donc, c'est qu'il a construit, qu'il a guéri et qu'il exacerbe à la fois.
Cela fait déjà longtemps qu'on a reconnu la grâce de votre écriture, Santiago Amigorena, car vous avez déjà publié de nombreux livres. Vous êtes l'auteur d'un vaste projet autobiographique où vous allez dévoiler, pas forcément chronologiquement, des étapes de votre vie, plutôt dans le désordre, et plutôt reliées à nous, lectrices et lecteurs, par une sorte de pacte. Un pacte fait de sincérité, de loyauté, de croyance en la littérature comme une possible universalité. Je vais lire un très court paragraphe d'un livre que vous aviez publié il y a quelques années qui s'intitulait « Une enfance laconique ». Et à la fin de ce premier chapitre, vous vous adressez à nous, lecteurs, la communauté des lecteurs. Vous écrivez ceci « Je ne dissimulerai pas le moindre doute, la plus infime maladresse, la plus grossière erreur ». Comme je me suis toujours donné à moi-même dans l'écriture, je me donne à présent à vous. Vous, c'est nous. Je vous laisse, en votre âme et conscience, seul lecteur de la vie d'un individu qui n'a jamais voulu écrire, le taciturne Santiago H. Amigorena.
Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est un bon résumé du projet, mais effectivement, j'ai commencé il y a très longtemps à travailler sur un seul projet qui m'occupe depuis une trentaine d'années. et qui raconte, disons, quoi, qui est constitué à la fois de l'autobiographie, c'est-à-dire que je raconte la vie de ce personnage qui porte mon nom et qui me ressemble énormément, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit avant sur la sincérité, parce que je pense que la sincérité se réfère pas à une mémoire qu'on pourrait certifier par d'autres mémoires. Je pense que pour moi, la sincérité dans l'écriture, c'est ma mémoire seule qui fait une sorte de constellation avec l'instant présent et qui permet de trouver une vérité qui est au-delà de la vérité que pourrait corroborer d'autres voix que la mienne. Et ce vaste projet donc est constitué de l'autobiographie et à la fois des œuvres complètes de quelqu'un qui a commencé à écrire très jeune et qui finalement, n'ayant pas trouvé de remède à son silence dans l'écriture de textes courts, décide de faire cet immense projet pour se libérer à la fois du silence et de l'écriture.
Votre dernier livre intitulé donc Le ghetto intérieur restitue l'histoire de votre propre grand-père. Celui-ci s'appelle Vicente Rosenberg. Vous vous appelez Santiago H. Amigorena. C'est quoi ce H?
Ce H, si je veux me faire gronder par mon père, ce H, c'est Horacio. Donc c'est mon deuxième prénom. Et c'est le prénom de mon père et aussi de mon grand-père. Donc de mon côté espagnol, italien, paternel, voilà, il y a une petite généalogie d'Horacio. Et donc j'ai voulu que ce H soit présent dans la manière dont je signe les livres. Et Rosenberg, c'est le nom de famille de ma mère, donc c'est mon côté maternel qui est évidemment tout aussi important et auquel je pense que je rends des hommages partagés aux deux côtés. Et il y a des silences des deux côtés. Mais voilà, le ghetto intérieur ne s'attache qu'à une seule figure qui est mon grand-père. Bon, je raconte évidemment sa vie avec ma grand-mère, avec ma mère et mon oncle et ma tante quand ils sont enfants. Donc c'est, je pense, une sorte d'éclairage donné à tous les autres livres en employant des moyens un peu plus proches de la fiction classique, je dirais.
Alors, on va parler de ce mot fiction, parce que ce qui est très troublant, c'est qu'à l'intérieur de votre œuvre, puisqu'il y a œuvre déjà depuis pas mal de temps, Santiago H. Amigorena, il y a dans ce vaste projet des livres que vous intitulez récits et d'autres que vous appelez romans. Celui-ci, qui vient de sortir, Le ghetto intérieur, ce n'est manifestement pas un roman. Vous avez beaucoup travaillé, historiquement, politiquement, sur la texture des mots, sur la désignation des choses et sur ce qui s'est passé dans ces années tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Or, tout, en tout cas pour moi, lectrice, tout semble vrai et vous avez mis roman.
Oui, pour moi, c'est de tous mes livres, c'est celui qui est le plus un roman. C'est-à-dire, je raconte évidemment des choses auxquelles tout le monde peut se référer. Il y a beaucoup de choses qui viennent de mes lectures, comme dans tous mes autres livres, mais dans ce cas-là, de lecture de livres d'histoire, donc pas de la poésie ou de la prose littéraire. Donc voilà, tout le monde pourrait dire, voilà, j'ai entendu parler de la manière dont les nazis ont cherché à définir qu'est-ce que c'est un juif, ou de la manière dont ils ont été regroupés, expoliés, extradés, etc., etc. Donc je raconte ces choses-là, mais en même temps, voilà, mon grand-père devient un personnage. Il va au café avec des amis, il discute avec eux. Je pense qu'il y a une, comme vous dites, une texture littéraire dans laquelle on reconnaît immédiatement ce qui fait le roman.
Ah bon, il jouait pas au poker et il perdait pas toutes les nuits.
Si, ça, il le faisait. Mais par exemple, les mots qu'il échangeait avec ses amis au café, je les connais pas. Je n'étais pas là et pourtant j'écris le dialogue. Donc après, c'est ce que je disais. Je pense que l'honnêteté ou la sincérité par rapport au passé, elle est à trouver dans un écho dans le présent et que parfois la chose la plus, pour moi, la plus vraie dans un livre, c'est pas forcément un souvenir où ma mère, mon père, mon frère ou d'autres ou des historiens pourraient dire mais c'est tout à fait vrai ce qui est écrit là, mais plutôt que Voilà, je trouve un mot que mon grand-père, prononce dans un café et ça me semble absolument juste. Et alors que tout le monde sait que je l'ai inventé, ce mot-là. Mais ce mot-là va être plus vrai que tout le reste.
Vous avez une vie assez romanesque, notamment dans l'enfance. Il n'y a pas seulement cet enfant muet qui ne voulait pas communiquer, y compris avec ses propres parents. Il y a aussi des origines latino-américaines, d'où ce nom, très romanesque aussi, Santiago H. Amigorena. Mais il y a aussi le côté Buenos Aires, et puis après vous allez partir pour l'Uruguay avec vos propres parents. Et je me dis qu'à l'intérieur de votre écriture, et ce depuis longtemps, il y a la recherche finalement d'élucider un certain flou de votre existence. Je vous propose d'écouter la voix de Jorge Luis Borges qui va parler de ce que signifie pour lui être argentin. C'est une archive INA du 7 juin 1978. C'était au micro de Jacques Chancel.
C'est un nom portugais. Mes deux noms sont portugais. Borges, je crois que ça veut dire bourgeois. Oui. Donc quand le communisme appelle bourgeois, je dis, je ne suis pas seulement bourgeois, je suis Borges aussi. Donc c'est deux fois. C'est le même mot, par exemple, que bourgeois en français, burger en allemand, Borges en anglais, etc. Non? Puis, le nom de ma mère est juif portugais, Acevedo. Oui, je suis argentin depuis quelques générations déjà. Depuis 4 siècles, si vous voulez. Oui. Être argentin, c'est être un Européen en exil. Quoique j'aime beaucoup la terre de mon exil, non? Je me suis habitué. Mais quand même, j'ai la nostalgie de l'Europe. C'est dommage que l'Europe ne soit pas toujours, ou ne soit plus le centre du monde. Tandis qu'à présent, nous regardons deux pays qui sont, je dirais, à présent, pas dans le 19e siècle, mais à présent, nous regardons vers deux pays qui sont foncièrement médiocres, les États-Unis et la Russie. Et on ne regarde plus vers l'Europe.
Argentin, Uruguayen ou Français, Santiago, vous vous sentez comment?
C'est toute la question. Par exemple, ce qui est très simple, c'est que je dis toujours que je suis argentin quand je suis en France, et dès que je rentre à Buenos Aires et on me demande ce que je suis, parce que voilà, je ne sais plus, et je dis très rarement quand je suis en Argentine que je suis argentin. Et j'aime bien dire que je suis uruguayen, alors que j'ai vécu seulement 6 ans à Montevideo. Je le dis souvent à... surtout à des latino-américains, à cause du racisme général qu'il y a contre les Argentins, qui est absolument justifié. On a un peuple assez insupportable. Mais je me sens évidemment français quand je suis avec mes enfants, par exemple. Mes 3 enfants, je me sens absolument français, parce qu'ils sont français. Je sens quelque chose de moi en eux et j'ai envie de le revendiquer.
Et vous leur parlez dans quelle langue?
Oh, je leur parle... Les deux grands, maintenant, je leur parle en français, mais quand ils étaient petits, je ne parlais qu'en espagnol, et j'ai une petite fille très petite, je ne lui parle qu'en espagnol. Mais je pense qu'une fois qu'on est exilé d'un pays, on est exilé partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à l'exil. Donc, Borges est un exilé de la culture, disons. Il a jamais su très bien ce qu'il faisait en Argentine, et en même temps, dans toute l'œuvre de Borges, finalement, il parle autant de la culture européenne, ou des sagas islandaises, de philosophes, de Spinoza. Il a ses références, on va pas toutes les citer, c'est impossible, mais aussi il a le tango, il a les bas quartiers de Buenos Aires, les duels au couteau. Donc voilà, il y a beaucoup de blagues sur les Argentins, le fait qu'on descende du bateau, que c'est la seule descendance qu'on peut trouver en Argentin. Moi, j'ai 4 grands-parents d'origine absolument différente, diverses, polonais, russes, italiens, espagnols, qui eux-mêmes n'étaient pas très sûrs de leur identité. Et donc dans le ghetto intérieur... Personnage principal, mon grand-père, se pose beaucoup cette question. Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est argentin? Est-ce qu'il est polonais? Et ce que raconte le livre, finalement, c'est comment, à certains moments de l'histoire, on n'a plus le choix d'avoir une identité multiple. Donc voilà, à cause de l'antisémitisme, du nazisme, finalement, il n'est que juif. Ce qui pourrait, pour certains, être une identité rassurante. On pourrait se dire, voilà, au moins je sais ce que je suis. Mais lui, non. Lui, finalement, comme je pense beaucoup de juifs, pendant la guerre et après la guerre, il a pas vécu ça comme un gain, comme une sécurité d'identité. Moi, j'aime bien l'idée que l'identité doit bouger, qu'elle est tout le temps multiple et mouvante.
Je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Lévinas qui va répondre à la question « Qu'est-ce qu'être juif ?» C'est une archive INA du 14 novembre 1976.
C'est une question que je ne me suis jamais posée. Comme je ne me suis jamais posé la question « Pourquoi je suis un homme ?» Voilà ce qui décrit le juif d'une manière banale, hein, et qui n'entre pas peut-être dans le fond de ce que cela est, n'est-ce pas? Alors quand on réfléchit sur ce que cela est, il faut parler de choses, il faut parler de valeurs, c'est absolument insupportable le mot valeur, l'être incompromis, vous savez, n'est-ce pas? Il faut parler de certaines valeurs, il faut parler de gens qui ont une conception très rigoureuse du divin, et qui sentent le divin dans tout ce qui est très haut, dans tout ce qui est sans compromis, tout ce qui est unique, hein, même quand ils sont athées, hein, même quand ils se souviennent du judaïsme d'autrefois. D'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui sont comme tous les autres hommes, n'est-ce pas, mais ils se souviennent de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont oublié. Ils se souviennent de ce qu'ils ont oublié. Il se comprend beaucoup plus à partir de Dieu qu'à partir du monde. Il comprend le monde à partir de Dieu, ce qui est d'ailleurs l'enseignement même de la Bible. Dans la pensée juive, on ne commence pas par nous dire ce qu'est Dieu. On nous dit simplement comment doit faire l'homme pour que ce mot ait un sens.
Qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui, Santiago Achamigorena?
En tout cas, pour moi, très clairement, c'est ne pas être seulement juif. Je dirais que être juif, c'est évidemment se poser la question de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, et surtout ne pas trouver de réponse. Donc, c'est la seule réponse que moi je trouve, en tout cas, à mon identité de juif. Si je savais ce que c'était, je pense que je cesserais d'une certaine manière d'être juif. Mais je veux pas dire par là que quelqu'un qui se pose la question de qu'est-ce que c'est être français, qu'est-ce que c'est être argentin, qu'est-ce que c'est être père de famille, qu'est-ce que c'est être écrivain ou médecin ou joueur de football, n'a pas le droit de se poser cette question et de ne pas donner de réponse aussi. Donc voilà, peut-être dans la culture juive, il y a une évidence plus grande à ne pas trouver de réponse à la question.
Quand avez-vous compris que vous étiez juif?
Je l'ai toujours pas compris. J'écris pour comprendre ce que je suis, comme je pense presque tous les écrivains, mais j'écris pour comprendre est-ce que je suis argentin, est-ce que je suis français. J'écris en français, par exemple, ça je peux dire, je ne suis pas un écrivain argentin, je ne suis pas un écrivain de langue espagnole. Je peux essayer de comprendre pourquoi, mais je peux pas. Je pense que ces définitions assez terribles, Lévinas le dit d'une manière absolument géniale. On se souvient de ce qu'on a oublié. Cette nécessité de définir l'identité d'une manière stricte, rigoureuse, c'est comme définir une patrie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres patries que l'enfance ou la langue. C'est-à-dire le mot patrie, moi j'ai entendu ce mot plutôt toujours résonner dans des bouches pas très joyeuses. Aujourd'hui, on essaye beaucoup de fixer ces choses. Qu'est-ce que c'est une nationalité, une identité, comment on peut se différencier des autres? Moi, j'ai toujours cherché plutôt à ne pas me différencier des autres.
Votre grand-père, Vicente, qui est le personnage principal de ce nouveau texte intitulé « Le ghetto intérieur », part de la Pologne pour différentes raisons, évidemment à cause de l'antisémitisme, mais aussi parce qu'il y a l'appel du nouveau monde, il y a l'espérance de la construction d'une vie illimitée, les possibles, l'appel, il est jeune. Et on a l'impression, au fur et à mesure que le livre va se dérouler, Santiago Achamigorena, que Vicente ne va plus avoir d'identité, effectivement. Il n'est plus polonais, il n'est plus tellement juif, et c'est une des questions principales de l'écriture de ce nouveau texte. Et il n'est pas non plus argentin. Il est plus rien. Il est plus rien.
Il est plus rien ou il est tout.
Voilà, oui,
c'est
tout.
Là, c'est plutôt Spinoza qui nous l'a fait.
Il est homme avec un grand H.
Voilà, c'est devenir un homme aussi que de savoir se perdre parmi les autres hommes. Et donc trouver qu'est-ce qu'on partage plutôt que ce qui pourrait nous séparer. Le livre là ne prend pas, je pense, cette voie qui pourrait mener très loin de savoir comment il va gérer ses identités multiples, ses désirs multiples. Il décrit seulement la manière dont il utilise l'arme qu'il trouve, qui est à sa portée, qui est le silence, pour se confronter à cette identité qu'on l'oblige à prendre et en même temps que voilà qu'il la refuse pas, il l'accepte pas non plus. Voilà, je pense que j'aime bien imaginer, donc ça voilà, c'est peut-être ça le type de sincérité qu'on peut avoir, parce que je ne sais pas si mon grand-père l'a vécu de cette manière-là, mais j'aime bien imaginer qu'il a voulu rester multiple.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Santiago Achamigorena, le concerto numéro 20 de Mozart, interprété évidemment par Clara Askill.
Thank you.
Il a envie de mourir, rien de plus. Ni envie de la voir, ni envie de parler, ni envie de comprendre, ni envie de ne pas comprendre, ni envie. Envie de mourir, envie de n'être plus. C'est ce que vous écriviez en 2014, Santiago Achamigorena, dans un livre bouleversant qui s'intitulait « Des jours que je n'ai pas oubliés ». Et à la suite d'une rupture amoureuse, le narrateur, qui vous ressemble beaucoup, a envie de sauter par la fenêtre. Mais finalement, il s'assoit devant la table de son bureau, il prend un stylo. Ça, c'était il y a quelques années. Et dans ce livre qui vient de sortir, « Le ghetto intérieur », vous nous restituez la vie de votre grand-père, Vicente. On va pas tout raconter, c'est pas un storytelling, c'est de la littérature ce que vous écrivez. Mais quand même, on peut dire, sans porter atteinte au plaisir que les lectrices et les lecteurs auront en lisant votre livre important, on peut dire que votre grand-père a eu aussi envie de se suicider. Pourquoi cette histoire de suicide se répète-t-elle à travers les générations ?
Encore une fois, pourquoi elle se répète, ça je serais incapable de le dire. Je pense que beaucoup d'histoires se répètent dans les familles. Par exemple, il y a un écho de ça dans le ghetto intérieur. Ma grand-mère raconte à ses enfants, pour qu'ils s'endorment, un conte de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, qui est un grand écrivain argentin, qui a écrit des contes pour enfants, mais beaucoup d'autres choses, à une famille où il y a eu, je sais plus, 5 ou 6 suicidés. Donc c'est vrai, c'était vraiment une tradition familiale. Donc dans ma famille, c'est pas le cas, mais je pense que c'est une famille où il y a une forme de mélancolie ou de nostalgie qui a beaucoup à voir avec l'écriture. Il y a de nombreux autres écrivains dans ma famille. Est-ce que ça mène forcément à des désirs de mort? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si mon grand-père a voulu se suicider de la manière que je décris dans ce livre. Mais il y avait quelque chose qui me semblait le plus juste que moi je pouvais faire avec sa vie, de décrire cette manière-là de vouloir en finir.
Et à chaque fois, ce sont les enfants et la vie qui arrivent qui empêchent le suicide.
Oui, voilà. On est malheureusement, si on peut dire, une famille où il n'y a pas eu beaucoup de morts par suicide, donc où le désir de mourir a été présent, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Mais finalement, voilà, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Est-ce que l'écriture m'a, moi, sauvé de ça? Oui, je pense.
Oui, mais en même temps, vous êtes un écrivain qui écrivait des phrases comme celle-ci. L'écriture est un suicide perpétuel et pourtant, vous passez votre vie à écrire.
Oui, elle n'est pas de moi, cette phrase. Je la cite. C'est un livre il y a longtemps, je pense qu'elle est de Blanchot. Oui, l'écriture est un suicide perpétuel. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de s'abstraire de la vie, de sortir de la réalité donc qui pourrait être une réalité immédiate. Donc on se met un peu en retrait, donc on se met un peu du côté de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on finit par se tuer. C'est-à-dire que c'est un suicide perpétuel, ça dit très bien qu'il n'y a pas de mort au bout. C'est le suicide continu, quoi qu'il arrive, tout le temps. Donc, pour moi, oui, l'écriture a toujours été aussi ça, un suicide perpétuel.
Et pourtant, les mots constituent le cordon ombilical qui va permettre aux différentes générations de rester en vie, y compris dans la douleur, la souffrance, la tragédie de la grande histoire. C'est ce qui se passe dans le ghetto intérieur avec notamment Vicente qui va garder le lien avec cette propre mère qui est restée en Pologne. Vicente espère que peut-être sa propre mère pourra le rejoindre dans cette terre bénie où la tragédie de l'histoire ne s'est pas abattue, mais elle continue à lui écrire. Et Vicente va lire ses lettres, et alors qu'il est amoureux de sa femme et alors qu'il a 2 enfants qu'il chérit, il ne va rien dire du contenu des lettres de sa propre mère. Encore une fois, pourquoi ce silence ? Culpabilité ?
Oui, je pense que culpabilité, impossibilité de partager des mots qui font sentir quelque chose d'aussi terrible que ce qui était en train de se passer en Europe. C'est-à-dire que il refuse d'imaginer vraiment tout ce qu'il pourrait voir derrière les mots des lettres de sa mère. Et voilà, il choisit de ne pas en parler. Est-ce que c'est pour faire disparaître cette réalité? Ce serait une sorte d'interprétation peut-être trop simple. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas l'écriture? C'est une autre possibilité. En tout cas, voilà, ce qui est clair, c'est que jusqu'à sa mort, donc dans les années quoi, en 69, donc bien plus tard, il n'a pratiquement jamais parlé de ce qui s'était passé pendant la guerre, de sa mère, de son frère. Donc ils sont morts tous les deux en Pologne. Ce n'est pas exceptionnel. Je pense que là, le silence est une arme pour beaucoup de gens. Et l'écriture est une arme aussi pour beaucoup de gens. Et encore une fois, l'écriture est aussi un autre silence. Donc.
Votre propre grand-père est déchiré par la culpabilité. Il ne veut pas se rendre compte de ce qu'il sait pourtant. Il le sait consciemment, mais dans son inconscient ou dans des zones grises de sa mémoire, il ne souhaite pas connaître l'entière vérité. Et votre livre se déploie aussi dans ce registre de l'innommable. Comment nommer l'innommable? Comment trouver des mots pour désigner l'impensable? C'est un des axes forts de votre nouveau texte, Santiago Achamigorena. Vous évoquez plusieurs auteurs qui ont admirablement parlé de cette période-là, et parmi eux, Primo Levi. Primo Levi, dont nous allons écouter la voix, il va évoquer le sentiment de culpabilité. C'est une archive INA non datée.
Si vedeva arrivare il convoglio di gente nuova, e dopo pochi giorni la scelta spontanea era venuta, cioè come un setaccio. C'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto.
Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. C'est l'émotion qui dérange, dont j'ai conscience peu à peu. Nous sommes une minorité non seulement exiguë, mais anormale. Nous sommes ceux qui, grâce à l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait ne sont pas revenus pour raconter ou sont revenus muets. Eux sont la règle, nous l'exception. Nous autres, favorisés par le sort, nous avons essayé de raconter non seulement notre destin, mais aussi celui des autres. C'est le récit de choses vues de près mais non vécues à notre propre compte. La destruction menée à son terme, l'œuvre accomplie, personne ne l'a racontée. Comme personne n'est jamais revenu pour raconter sa propre mort. Nous, nous parlons à leur place, par délégation.
Oui, voilà, c'est toute la question. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de mots pour dire quelque chose, je pense que très rarement on arrive à se taire. Donc, finalement, l'écriture, très souvent, est cette recherche désespérée, éternellement vouée à l'échec, de mots pour dire ce qui ne peut pas être dit, que ce soit une tragédie personnelle ou une tragédie historique. C'est difficile de parler après Primo Levi. C'était difficile après Borges pour d'autres raisons, mais après Primo Levi, c'est presque impossible. C'est-à-dire que moi, je raconte l'histoire d'un survivant, un témoin qui est surprotégé. C'est un témoin qui est à 12 000 km de distance, qui ne perçoit la réalité de la Shoah qu'à travers quelques lettres que lui envoie sa mère depuis le ghetto de Varsovie. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'expérience de vie de Primo Levi. Mais voilà, ce qui
s'est suicidé.
Bien sûr, on a envie de dire comment il aurait pu ne pas se suicider. Il s'est suicidé ayant trouvé les mots, parce que les textes de Primo Levi, évidemment, nous continuent de nous parler, continueront toujours de nous parler et de dire ce qui est presque indicible et parfois même presque inaudible pour tout le monde. Je sais pas. Je me sens un peu mal à l'aise d'avoir cherché aussi des mots pour dire ça. Moi, j'étais évidemment encore beaucoup plus loin et beaucoup plus préservé.
Mais c'est important que votre génération, qui n'a pas connu cette période-là, puisse restituer cette recherche à la fois généalogique, historique et politique.
C'est toujours important, évidemment, de penser le passé pour se battre dans le présent. Donc ça, il n'y a aucun doute sur le fait que raconter cette histoire, voilà, on la raconte aussi par rapport à aujourd'hui. Il y a un tout petit paragraphe dans le livre où je fais un parallèle que, voilà, j'ai hésité à le laisser parce que je pensais qu'il y avait, ça pouvait sembler maladroit. Mais finalement, en Argentine, dans les années 70, à la fin des années 70, pendant la dictature, la plupart des gens ne voulaient pas savoir, ne voulaient pas croire qu'il y avait des disparus. Donc, voilà, on pensait qu'il y avait des gens que les militaires prenaient et qu'ils jetaient depuis des avions dans la mer, dont on n'avait plus de nouvelles. C'était, pour beaucoup de gens, pour la majorité des gens, c'était inimaginable. On a mis longtemps à mettre des mots, quoi. Les gens qui ne pouvaient pas le croire ont mis très longtemps à mettre des mots sur ça. Voilà, la littérature peut-être, oui, peut aider, en tout cas, à trouver des mots et à ce que les autres trouvent aussi des mots.
Cette histoire du ghetto intérieur, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre famille, Santiago Achamigorena, mais c'est aussi notre histoire, parce que c'est un livre historique et politique qui essaye de restituer la vérité des faits. Et manifestement, vous avez fait preuve de recherches historiographiques extrêmement précises et vous vous intéressez à la transmission de la connaissance de la vérité. Je vais être plus explicite. Vous avez retrouvé à l'intérieur des articles de journaux du monde entier à partir de quand ce qui arrivait aux Juifs a été transmis au public. Et vous nous apprenez que c'est le Daily Telegraph, le journal Le Daily Telegraph, qui au mois de juillet 1942 a été le premier journal à expliquer au grand public ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Puis ensuite, deux journaux argentins, La Prensa et Critica, ont continué à expliquer ce qui se passait. Puis ensuite, le 25 novembre 1942, le New York Times, qui publie un article sur les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka, sur les chambres à gaz et les fours crématoires d'Auschwitz. Et pourtant, personne n'a bougé. Pourquoi ?
Ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas du tout le fait de pouvoir accéder au savoir qui nous permet d'accéder au savoir. À ce moment-là, c'est quoi, le premier article Daily Telegraph, c'est quelque chose qui est très connu. Hein, j'ai pas eu du mal à retrouver ça. Les autres articles, non, j'ai dû chercher un peu plus pour savoir à quel moment en Argentine il y avait eu des articles. Et j'étais plutôt surpris qu'il y ait eu des articles assez tôt qui disaient, quoi, les mots sont clairs, la description des camps, de l'extermination des Juifs est claire, mais personne n'a voulu donner l'ampleur que ça aurait pu prendre. C'est-à-dire c'est des articles qui étaient publiés dans les dernières pages des journaux, très souvent, qui n'étaient pas très longs et surtout qui ne provoquaient rien. Mais c'est le cas toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit, on continue de vivre une période où les plus grands drames, les plus grandes tragédies qui occupent notre présent sont dites, narrées par les journaux, par la télé, par Internet, et pourtant elles nous empêchent pas du tout de continuer de vivre d'une manière qui est plutôt du côté de l'ignorance, je pense. C'est-à-dire que par exemple, on croit, on dit très souvent qu'on vit dans des pays qui ne sont pas en guerre, alors que dans les 20 dernières années, il y a eu plusieurs guerres auxquelles la France, comme les autres démocraties occidentales, ont participé, qui ont fait centaines de milliers de morts. On en parle et en même temps, il y a quelque chose qui est... on ne trouve pas la manière de parler de ça. Je pense qu'on ne trouve pas la manière encore de prendre conscience de ça. Je ne sais pas s'il y aura un jour dans l'humanité une manière de prendre conscience qui fera que politiquement on arrivera à ce que ça s'arrête. En tout cas, je pense qu'on en est loin, on en est presque aussi loin qu'on en était pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Savoir nommer les choses, c'est aussi un des thèmes les plus profonds de ce nouveau livre, Santiago Achamigorena. Comment nommer des choses innommables ? vous l'expliquez très bien, ce mot, il a pris plusieurs métamorphoses syntaxiques. Ce qui était impensable, c'est l'extermination du peuple juif. Et pourtant, ça a été pensé par les nazis. Ça a été exécuté, ça a été commandité, ça a été planifié, ça a été structuré. Maintenant, on le sait. Mais, par contre, nommer ce qui s'est passé. Vous l'expliquez très bien dans des pages magistrales. Au début, les gens, pour nommer l'innommable, ont pris les mots que les nazis avaient imaginés. Et ce mot que les nazis avaient imaginé pour l'extermination du peuple juif, c'était la solution finale. Et c'est ce mot qui a été pris par tous les politiques, par toutes les personnes qui parlaient de cela.
Les alliés ont repris le terme des nazis pour parler de cet événement, et qui est quand même... C'est un nom assez terrible, solution finale. Il y a quand même solution. Donc... et après, effectivement, ça a mis très longtemps on a cherché d'autres noms. Donc, il y a le Shoah plutôt qui est resté en français, Holocauste qui est un peu resté plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais le débat ne devrait pas se fermer non plus. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt contre qu'on finisse par trouver un seul nom. Je pense qu'il faut continuer. C'est aussi en continuant de nommer qu'on peut continuer de penser la Shoah. Il y a une tendance historique aussi à dire que c'est impensable et qu'il faut respecter cet impensable. Je ne pense pas qu'il faut le respecter à ce point. Je pense qu'il faut le politiser en le pensant.
Et savoir nommer, c'est pouvoir transmettre.
Bien sûr. Bien sûr.
Dernière question, Santiago Echamigorena. Votre grand-père, Vicente, a-t-il su que sa mère avait été déportée à Treblinka?
Oui, il l'a su, mais je ne sais pas exactement comment il l'a su. Je ne sais pas... je ne sais pas quand exactement il l'a su, mais c'est resté dans la famille et ça a été effectivement pour le coup vérifié ensuite par ma mère et mes tantes. Donc, c'est-à-dire que tout le travail historique qui entoure la Shoah est aussi fascinant par son ampleur. C'est-à-dire qu'il y a, la quantité de littérature historique sur cet événement est énorme. Donc on peut, même pour des histoires personnelles, on peut aller chercher une vérité qui serait en dehors de la littérature. C'est pas celle qui m'importe le plus. Je reviens juste très vite sur la musique, par exemple. À un moment, je dis dans le livre que mon grand-père écoute le concerto de Mozart.
Pas celui-là, d'ailleurs.
Qui n'est pas cette version-là. Surtout qui n'est pas cette version-là, parce que Clara Askill l'a enregistré après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, moi je vois mon grand-père écoutant ma version, ou la version que moi j'ai écoutée du concerto, et ça me suffit.
J'aime penser que Vicente vit en moi, et que Vicente et Rosita vivront toujours lorsque moi-même je ne vivrai plus, qu'ils vivront dans le souvenir de mes enfants, qu'ils ne les ont jamais connus, et dans ces mots que, grâce à mon cousin aîné, j'ai pu leur adresser. C'est la fin de ce roman magistral. Merci infiniment, Santiago Echamigorena, Le ghetto intérieur, qui vient d'être publié aux éditions POL.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. De relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. comme sec est mon cœur, comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Stéphane Echer pour Si tu veux. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique ce soir. Merci à Elodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Alaume qui a réalisé ce soir cette émission. Et après, le prochain journal d'information, comme tous les lundis et ce jusqu'à jeudi soir, vous avez rendez-vous avec Mishka, l'ami Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip. Il est 20h59. Pour une fois, je ne suis pas en retard. Vous écoutez France Inter.